Donc je me suis dit, moi aussi, je vais me mettre assis. On est dans la période qu'on appelle la période de l'Avent. C'est la période qui nous dirige vers Noël. Vous savez ça? On n'a pas sorti la couronne, on n'a pas allumé les bougies, mais imaginez-la, d'accord? C'est pas grave, en plus, c'est pas essentiel. Mais on est dans cette période. Et cette période nous dirige en fait vers cette période qui est la naissance de Christ. Christ, Jésus, qui est le roi. Pour nous, qui avons choisi d'être chrétiens, qui avons choisi de le suivre, c'est lui qu'on appelle le prince de la paix, le roi des rois. Et ce matin, en préparant ce message, j'avais vraiment à cœur de nous rappeler qu'on a besoin d'un roi, qu'il y a une nécessité pour nous d'avoir un roi. Et si vous êtes d'accord, et puis si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave parce que c'est moi qui ai le micro, mais c'est là-dessus qu'on va partager ce matin. Et on va partager, même si on va vers Noël, et Noël c'est la naissance de Jésus dans la crèche, cette belle histoire remplie de paix, etc. Vous allez vous dire ce matin, avec l'histoire que je vais vous raconter, que je suis plutôt en train de prêcher sur Halloween. Parce que vous allez voir, je pars d'une histoire qui est odieuse. Ce matin, on va parler d'une histoire que je vais même devoir censurer, qui est dans la parole pourtant, c'est dans la Bible. Vous pourrez aller vérifier par vous-même ceux qui ont soif de regarder des films d'horreur, etc. J'espère que ce n'est pas trop parmi nous, mais si vous avez ça, vous pouvez voir dans la Bible ce genre d'histoire. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une histoire qui se trouve dans le livre des Juges et qui nous montre ce que ça crée quand il n'y a pas de roi, quand le roi est absent. Et on va voir ça ensemble, si vous êtes d'accord. Mais ce matin, c'est une histoire qui est un petit peu longue. Je vais essayer de la rendre simple, facile pour chacun de nous. Mais si vous loupez partie de ce message, vous pourrez soit le réécouter sur cela, soit regarder les images que je vais aussi mettre sur le site internet. Il vous suffit d'aller sur église-ecp.fr podcast. Donc cette histoire, comme je le disais, se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre qui se trouve juste après que le peuple d'Israël, qui a été délivré de l'esclavage d'Égypte à travers Moïse, arrive dans un pays, devant le pays de la terre promise, qui s'appelle le pays de Canaan. Pour certains, vous savez ça, en fait, c'est l'histoire de ce peuple. Et il arrive là à travers un gars qui s'appelle Josué. On se trouve à peu près à 1380 avant Jésus-Christ. Et ce livre, ensuite, vient couvrir toute une période de 330 ans, jusqu'à l'établissement d'une monarchie, d'un roi, à travers David, Saül et David réellement, mais après David. Et c'est dans ce passage-là qu'on va se retrouver ce matin. Et à cette époque, si vous voulez, le peuple d'Israël, il fonctionnait un peu comme l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait 12 tribus, il y avait des gouvernements, si vous voulez. Chaque peuple avait son propre gouvernement et ils fonctionnaient ensemble comme une union. Ça va jusque-là? C'est clair? J'essaye de le rendre simple, hein. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et il n'y avait pas de roi à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était censé avoir Dieu comme roi. Donc il n'y avait pas besoin d'un roi dans le naturel, de quelqu'un qui vienne gouverner toute cette union. Et la manière dont ça devait marcher, c'était Dieu est le roi, il établit des lois. Et il y a des juges, des personnes qui sont là, qui ne sont pas des rois, mais qui sont en position d'autorité pour s'assurer que la loi de Dieu, eh ben, elle est écoutée, elle est gardée et elle est appliquée. Et de temps en temps, ces mêmes juges étaient aussi des personnes qui venaient apporter une délivrance, parce qu'il y avait des oppressions, des peuples qui étaient autour de ce pays, qui venaient et qui essayaient de rentrer dans ce pays. Et ce peuple, les juges étaient là aussi pour la délivrance. Ça va, vous me suivez jusque-là? Donc on est dans ce contexte. Et en fait, on arrive à un moment où Israël a tout bonnement arrêté, ils ont abandonné en fait la loi de Dieu. On arrive à ce moment-là qui est juste terrible. Et pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Simplement parce qu'ils n'aimaient pas qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous des gens qui sont comme ça aussi? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? On n'aime pas trop que les gens nous disent quoi faire, pas vrai? Je pense que ça résonne un peu chez tout le monde. Ben, ils étaient comme ça, et ils n'aimaient pas ça. Et donc, du coup, ils ont simplement décidé de mettre de côté la loi de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Ils rentrent dans un cycle où le peuple désobéit à la loi de Dieu. Il se passe un désastre, quelque chose de terrible. Et après, ils ont besoin d'une délivrance, d'une liberté, de retrouver la paix. Et après, ils abandonnent de nouveau la loi de Dieu. Le cycle revient. On désobéit. Il y a de nouveau un désastre. On a de nouveau besoin de délivrance. Et ainsi de suite. Le peuple dit « je ferai plus jamais ça » et en fait, ils le refont. Et je pense que ça connecte un petit peu à nous. Parce que qu'on soit chrétien, on se dise chrétien ou non, ça nous arrivait à tous de désobéir. Désobéir à un parent, désobéir à une autorité, désobéir à sa propre conscience. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et puis tu le fais quand même. On désobéit à quelqu'un à un moment donné. Qu'est-ce qui arrive après? On se rend compte qu'il y a un désastre qui se passe dans notre vie. Et là, on crie à l'aide. Quelqu'un vient m'aider dans cette situation que j'ai attirée sur moi, soit parce que j'ai désobéi à ma conscience ou parce que j'ai désobéi à quelqu'un qui m'avait encouragé à respecter quelque chose. Ça vous parle? Le peuple, il a vécu ça, le peuple d'Israël, pendant 330 ans, ce cycle-là. Ben, vous imaginez? Ça fait un peu long, hein? Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire qui se trouve dans le livre de Juges, vers la fin, au chapitre 19. Vous allez voir, c'est une histoire infâme, vraiment une histoire odieuse. Et ce qui se passe, c'est, on va voir en fait ce qui arrive quand un groupe de personnes, un groupe de personnes décide de faire ce qu'il pense être juste à ses yeux. Toi, tu fais ce qui est juste à tes yeux. Puis toi, tu fais ce qui est juste à tes yeux. Toi, tu fais ce qui est juste à tes yeux. Moi, je fais ce qui est juste à mes yeux. Chacun fait ce qui lui semble juste à ses yeux. Et là, on va voir le résultat vers quoi ça nous conduit. Et rappelez-vous, la nation, elle était divisée en 12 tribus. Il y avait des tribus. Il y en avait certaines qui étaient composées de 10 milliers de personnes, des dizaines de milliers, et d'autres des centaines de différentes tailles dans ce territoire. Et l'histoire commence ainsi. C'est un Lévite, un gars au service de Dieu, on ne sait pas son nom, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la région montagneuse d'Éphraïm, à peu près au centre d'Israël aujourd'hui, si vous regardez. Il arrive de cette région-là. Et ce gars-là, il se dit, tiens, j'aimerais bien une petite copine. Et du coup, il se dit, ah, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Et ce qu'il fait, en fait, c'est que il va chercher ce qu'on appelle, et la manière dont c'est référé dans cette histoire, si vous lisez la Bible, à partir de Juges 19, une concubine. Une concubine, c'est, si vous voulez, un peu une femme, une servante, une petite amie, un peu tout ça à la fois. C'est genre légal, mais pas vraiment légal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui se pratiquait dans ce lieu, dans le territoire de Canaan, avant que le peuple d'Israël rentre. Les Canaanéites avaient des concubines. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était pour les Israélites quelque chose de bon. Ils ne faisaient pas ça. Mais ils sont rentrés dans ce territoire et ils ont hérité de ce qui se passait là. Et donc, ils ont commencé, eux aussi, à avoir des concubines. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez? Et du coup, cette femme, en fait, elle vient de la région de Bethléem, c'est juste au sud, il y a Éphraïm, ensuite vous avez le territoire de Benjamin, et ensuite vous avez la Juda, et Bethléem se trouve en Juda. Ça va, vous me suivez jusque-là? Voilà. Et en fait, donc il commence, et cette... Tu voulais un siège peut-être, Rachel? Et là, l'histoire commence. Le Lévite va chercher cette femme, il descend à Bethléem, trouve cette personne, il lui demande, il la ramène à lui, remonte, il va jusqu'à Éphraïm et ils commencent à vivre ensemble. Et pendant un temps, tout se passe bien. Et à un moment donné, elle lui est infidèle. lui découvre qu'elle lui est infidèle. Elle découvre que lui a découvert qu'elle est infidèle. Et du coup, elle se dit, ah, ça ne le fait pas. Bam, elle repart chez papa et maman dans le sud. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation pendant un temps. Et l'histoire continue. Et au bout d'un moment, ce Lévite, il se dit, ah, j'aimerais quand même aller récupérer ma concubine. Parce qu'après tout, elle était là avec moi et tout. Et du coup, il redescend, il traverse le territoire de Benjamin. Et il arrive près de Bethléem. Et il va toquer à la porte son beau-père, si on peut appeler ça un beau-père. Et il commence à parler avec son père et il fait « Ah, je viens récupérer ma concubine, votre fille. » Et le père, le beau-père, on le sent, il n'est pas trop, il n'est pas trop à l'aise avec l'idée. Et il lui dit « Ah, ok. » Et il commence à se dire, bon, le beau-père, il se dit « Bon, j'ai pas trop envie de ça, ah, je vais le faire bien boire. » Et il lui dit, viens, rentre, et puis il commence à lui servir un verre au Lévite. Puis un deuxième, un troisième, le mec, il est complètement torché. Torché le soir, mal de crâne et tout, il va au lit, il se réveille le lendemain matin, et complètement torché, il se lève peut-être vers midi. Et puis il se dit, ah ouais, bon, maintenant il est temps, je prends ma concubine et je repars à Éphraïm. Et puis le beau-père, il est là, oh, tu vas pas partir à midi, c'est beaucoup trop tard, reste encore un peu avec moi. Et puis rebelote, le beau-père il commence à le resservir l'apéritif déjà à midi, commence à être torché, le soir arrive, de nouveau mal de crâne, le lendemain midi, et pendant plusieurs jours comme ça, le Lévite ne part pas, mais il reste dans le territoire de Bethléem avec le beau-père, la concubine, ses deux ânes et son servant. Et il est là, et à un moment donné, il se dit « Non, 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 bon, maintenant il faut que j'y aille, quoi. Il faut quand même que je retourne, je ne vais pas rester chez le beau-père et tout. » Et un soir, enfin, tard dans l'après-midi, il se dit « Non, non, bon, maintenant, j'y vais. Je prends ma concubine, je la mets sur mon âne et je remonte avec mes deux ânes, mon servant, etc. » Et c'est ce qu'ils font. Ils quittent le territoire de Bethléem, ils remontent. Et la Bible nous dit qu'ils arrivent tard le soir. Et ils arrivent en fait dans... une ville qui s'appelle Gibéa, qui se trouve dans le territoire de Benjamin. Et là, la manière dont ça se passe, ils arrivent, parce qu'il fait tard le soir, ils se disent « bon, il faut bien qu'on dorme », ils arrivent et ils se positionnent sur la place du village. La place du village, si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas d'endroit, etc. Il n'y avait pas d'Airbnb. Vous ne pouvez pas aller checker son application et puis essayer de trouver un lieu pour dormir en dernière minute. Il arrivait et en fait, on se positionnait sur la place du village et on attendait près d'un puits. Et la manière dont l'hospitalité se passait dans cette époque, c'était que les gens de la ville, qui étaient plutôt des gros villages à ce moment-là, arrivaient et passaient près du puits. Et ils emmenaient les personnes avec eux et les gardaient à la maison. Ça, c'était comme ça que ça se passait l'hospitalité en Israël. Mais le gars, il est là sur sa place et tout. Il a tout ce qu'il faut hein, pour sa famille et tout, le fourrage, pour les ânes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les gens, ils le regardent et ils commencent à l'ignorer. Personne qui s'arrête pour l'inviter à venir dans sa maison. Alors, c'est un peu bizarre. Et puis le gars, il se dit, bon, OK. Et l'histoire dit, elle continue, puis il arrive tard le soir, très très tard le soir, et là il y a un vieillard, un homme âgé qui arrive et il commence à passer, il passe près du gars, commence à taper la discute, et il lui dit, ah ouais, tu viens d'où ? Ah, je viens de la montagne d'Éphraïm. Et le gars, le vieux, il dit, ah, c'est pas vrai ! Moi aussi je viens de la montagne d'Éphraïm, oh, on a des choses en commun et tout, et puis il commence à avancer, et le gars lui dit, bon, je vais pas te laisser quand même ici sur la place du village, allez, viens chez moi ! Et donc le vieux, il prend ce Lévite, sa concubine, son servant et ses deux ânes, et il les emmène chez lui. Ça va jusque-là ? Vous m'avez suivi ? L'histoire, ça va ? Ok, je vérifie. Jusque-là, vous allez me dire rien d'horrible. Mais c'est là que l'histoire commence à devenir un petit peu odieuse. Et donc, l'auteur du livre de Juges nous dit que ce vieillard, il a ses gens à la maison, il commence à bien boire, à bien manger, à taper la discute et tout, puis ils arrivent tard et à un moment donné, il y a des gens qui commencent à encercler cette maison. Il y a des gens qui commencent à encercler cette maison et commencent à taper à la porte. Ta, 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 ta. Et alors, le vieillard, il ouvre la porte. Et voilà ce qui arrive. Les gens qui sont dehors, ils disent « Fais sortir l'homme qui est chez toi, nous voulons... » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas ces hommes-là qui étaient autour de lui, ce n'était pas pour une gratification qu'ils voulaient faire ça. C'était une mesure d'humiliation. À l'époque, encore une fois, dans le territoire de Canaan, que les Israélites ont pris, c'était une pratique qui était courante pour humilier les hommes. C'est ce qui se faisait. Les hommes couchaient avec les autres hommes pour les humilier. Pas pour la gratification personnelle, mais vraiment pour les humilier. Et d'ailleurs, c'est des choses qui se sont reportées un peu plus tard dans l'Empire grec. C'est pour ça que des fois on dit comme un grec. Et chez les Romains. Et c'était une pratique d'humiliation, pas de gratification. C'est ce qu'ils faisaient pour dire, voilà, en fait, ce qu'ils avaient envie, ces gars, c'était de dire, on va lui donner une bonne leçon. Il va comprendre qu'ici, il n'y a pas d'hospitalité. On n'accueille pas les étrangers chez nous. On n'en veut pas. On va lui faire subir cette humiliation. Il va repartir et il va aller dire dans tout son pays, non, non, n'allez surtout pas à Gibea, on est mal reçus là-bas. Il ne faut pas y aller, ce sont des gens qui sont brutales, etc. Et c'est ce qu'ils avaient envie de faire subir à cet homme. Et le maître de la maison, donc l'autre qui était là, le vieillard, il sort vers eux et il leur dit « Non, 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 mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie. » En gros, il est sous ma responsabilité, il est sous mon toit, c'est moi qui l'ai pris, je lui ai donné l'hospitalité, ce qu'on est censé faire entre Israélites. C'est ça qu'on avait prévu de faire. Et l'homme dit « Puisque cet homme est l'hôte de ma maison, ne faites pas une chose si infâme, n'allez pas coucher avec lui. » Et là, on se dit « Bon, le vieillard, c'est un héros. » C'est un mec qui s'interpose entre les gars là et puis le mec qui pourrait subir. Mais après, l'histoire, elle devient encore plus bizarre. Regardez ce qui se passe. « Écoutez, dit le vieillard, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai. Vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. » Vous vous rendez compte? C'est pas une histoire terrible, ça? Mais ces hommes qui avaient toqué à la porte ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite, donc ce gars qui est revenu avec sa concubine, prit son épouse et la fit sortir vers eux. Il l'a. Je n'ai pas mis le reste du verset. Je l'ai censuré. Ce qui arrive après est juste horrible. Choses odieuses, des choses qu'on n'a pas envie de voir, pas envie de vivre et qu'on n'a pas envie de lire. Horrible. Le lendemain matin, le Lévite, il ouvre la porte, il découvre sur le seuil de la porte sa concubine morte, affalée, morte. Il la prend. Il la met sur son âne, il retourne dans son village à Éphraïm et il s'arrête, rempli de colère. Il se dit, quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Alors il décide d'une chose. Il se dit, je vais écrire une lettre à ces 12 tribus. Je vais leur écrire une lettre et leur raconter mon histoire. Leur dire la chose horrible qui s'est passée. Et puis, il se dit, mais qui suis-je pour que cette histoire soit écoutée ou entendue? Non, il faut quelque chose de plus frappant. Alors, ce qu'il décide, il prend sa concubine et la découpe en 12 morceaux. En 12 morceaux, il emballe les morceaux, les membres, et les attache à la lettre. Il prend des émissaires et il les fait envoyer dans les 12 tribus. C'est dans la Bible. Désolé pour ceux que ça choque, hein. J'aurais peut-être dû faire ce message à Halloween. Mais voilà ce qui se passe. Une chose horrible, terrible. Et puis après, voilà ce qui est dit. Tous ceux qui virent cela, tous les émissaires, tous les maires des villes qui ont reçu cette lettre et ce colis et qui ont ouvert et qui ont découvert une jambe, un bras, un mollet, une autre partie du corps, ils disent, c'est horrible, c'est pas possible. Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël, notre vie, notre union, nous, le peuple de Dieu, sont montés du pays d'Égypte, sortis d'esclavage jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Et donc là, ces maires, ces autorités, ils décident de se rassembler, et puis ils commencent à discuter, et ils montent une armée. Ils disent, on ne va pas laisser faire ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est horrible ce que ce peuple de Benjamin, cette tribu-là, a fait contre cet homme. Donc ils commencent à monter une armée, et ils arrivent aux portes de Gibéa, cette ville, et là, ils demandent que les gens pervers, les gens méchants qui ont commis ces œuvres-là, sortent afin qu'ils soient punis. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'ils se sont réunis, ces gens-là, tous ces maires, tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Ils sont rassemblés à cet endroit-là et ils ont pris une décision. Ils se sont dit, voilà, ce peuple-là de Benjamin, ils ont fait des choses tellement horribles qu'on va prêter un serment. Et jamais aucune de nos filles ne va marier un de ces types. La tribu de Benjamin, jamais nos filles n'iront les marier. Et ils font ce serment-là à Mitzpah. Et alors ils marchent vers cette ville de Gibéa. En force, des milliers de personnes qui viennent, chaque tribu représentée, chaque village représenté. Ils ont monté cette armée, les hommes arrivent et ils sont là aux portes de la ville de Gibéa. Donc vous imaginez un truc énorme. Le problème, c'est que il y avait 12 tribus, il a envoyé 12 membres, le gars. Donc il en a envoyé aussi un membre à la tribu de Benjamin. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah tiens, on a reçu cette lettre de ce qui est arrivé d'horrible avec ce membre. Certainement, les 11 tribus vont venir nous voir et nous demander des comptes. Donc, ils se sont préparés, les Benjaminites. Ils se sont rassemblés, ils ont mis toutes leurs forces ensemble à Gibéa. Vous voyez la stratégie, hein ? Vous êtes avec moi dans le truc ? Et ils se sont dit, on va pas se livrer, on va pas se livrer à eux. Et donc, quand les Israélites arrivent, commencent à se dire, livrez-nous les gens, etc., les Benjaminites disent, non. Et là, il y a une guerre qui commence à se mettre en place, une bataille féroce. Et le premier jour, c'est Benjamin qui gagne, le territoire qui gagne. 22 000 Israélites sont mis à mort. Ils battent en retraite, ils se disent non, il faut que justice soit faite. Il faut que ce peuple-là, ceux qui ont commis ces meurtres, ces choses-là, soient repris. Et donc ils reviennent vers Gibéa le deuxième jour. Deuxième jour, Benjamin gagne encore. La tribu de Benjamin gagne encore. 18 000 personnes sont mises à terre. Vous vous rendez compte ? Elle est où la justice ? On aurait envie que ça soit déjà gagné. Puis finalement, le troisième jour, ils viennent avec une stratégie. Ils se disent, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a qui vont arriver aux portes, etc. Et puis après, on va faire comme si on battait en retraite. Les gens vont sortir de leur ville. Et pendant qu'ils sortent de leur ville, il y en aura d'autres qui seront là en embuscade et qui vont rentrer dans la ville, qui vont tout mettre à feu. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qui se passe. Ils arrivent, la bataille commence à prendre lieu, les Benjaminites sortent. La ville, et ils croient qu'ils vont gagner. Ils se disent, on va les poursuivre juste dans le désert, on va les massacrer, et comme ça, ça sera une grande victoire pour nous. Et puis au moment où ils commencent à faire ça, ils se retournent et ils voient leur ville en fumée, en flammes, et ils se disent, ils sont pris en deux, et ils décident de revenir vers la ville, et là, ils sont pris au piège. Toute l'armée vient sur eux, et la victoire est donnée à Israël. Et là, soiffés de sang, les 11 tribus, elles viennent et elles commencent à massacrer les hommes, les femmes, les enfants, le bétail, toute la tribu de Benjamin. Sauf 600 personnes, 600 hommes, qui le jour de la première bataille ont eu un peu les chocottes, un peu peur, et ils sont partis dans le désert. Il ne reste plus que ces 600 personnes. Sinon, toute la tribu est morte. Un génocide. Vous vous rendez compte ? Et quelques jours après, les responsables se rassemblent et ils se disent « Qu'est-ce qu'on a fait ? On était 12 tribus, Et maintenant, on n'est plus que 11. Et ils se disent, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. C'est nous qui avons fait ça. Pardon, Seigneur. Ils commencent à se repentir. Et ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il y en a un qui dit, ah, il me semble qu'il y a 600 hommes qui restent encore. Ils sont allés dans le désert et tout ça. Il y en a un autre qui dit, ouais, ce sont 600 hommes, mais le problème, c'est qu'on a promis qu'on n'allait pas leur donner nos filles en épouse. Du coup, c'est la fin quand même de leur truc, vous comprenez? Puis là, il y en a un autre qui dit, ah, j'ai peut-être une idée. Est-ce que parmi tout notre pays, il n'y a pas une famille ou un village qui n'a pas participé à cette conquête vers Gibéa? Puis là, il y en a un autre qui dit, ah, il me semble qu'il n'y a personne de Jabès en Galade qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Jabès en Galade? Et là, personne ne lève le doigt. Alors, ce que les gars se disent, bon, ce qui nous semble juste à nous à ce moment-là, comme eux, ils n'ont pas participé, c'est on va aller vers cette ville, on monte une armée un peu plus petite, et on va aller tuer tous les hommes, tuer toutes les femmes, tuer leur bétail, mais on va garder toutes leurs jeunes filles. Et on va donner leurs jeunes filles en mariage à ces personnes. Ça me semble un bon plan, c'est ce qu'ils pensent en eux-mêmes. Et donc, ils font comme bon leur semble, ce qui leur semble juste à ce moment-là. Et ils mettent leur plan en route, et c'est ce qui passe, ce qui se passe. Ils vont à Jabès en Galade, et ils font exactement ça. Et donc, ils arrivent, ils reprennent les filles, ils les ramènent ici, et ils sont là et ils disent, bon, mince, ils sont 600, on a 500 hommes. On a 500 hommes avec nous. Et ils ramènent ces gars-là, ces 600, pardon, il y en a 500 femmes avec nous et ils sont 600 hommes. Ils ramènent ces 600 hommes du désert et leur disent, bon, on a une très mauvaise nouvelle, puisque vous ne le savez pas encore, on a exterminé toute votre tribu. Très mauvaise nouvelle. Mais par contre, on a une bonne nouvelle, on vous a trouvé des femmes. Ouais, comme ça, vous allez pouvoir redémarrer votre tribu. Mais par contre, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y en a que 500. Donc, tout le monde n'aura pas de femmes. Alors, là, il y en a un autre qui se dit, ah, mais dans quelques temps, il y a un festival à Silo qui va se passer. Ben, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est que pendant ce festival, là, les filles, elles vont commencer à danser et tout, puisque c'était un truc qui se passait. Et ben, pendant qu'elles dansent, on va avoir les personnes, là, les hommes qui n'ont pas de femmes, on va les placer dans la forêt, et puis quand elles commencent à danser, ils vont aller kidnapper leurs femmes et la ramener avec eux. Et c'est ce qu'ils font. Ils kidnappent la femme et ils s'en vont. Et la manière dont ils disent, ben, on va dire au père, ben, vous êtes OK, vous n'avez pas rompu votre serment puisque vos filles, vous ne les avez pas données, elles ont été kidnappées. Et donc là, ils arrivent à avoir de nouveau un début de tribu. Ça va jusque-là? Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée quand vous alliez vous coucher au lit, hein, quand vous étiez petit. Ce n'est pas une histoire qui nous fait penser à Noël. Mais je voulais vous la raconter en détail et suffisamment détaillée pour que vous puissiez comprendre ce qui est au fond. Et l'auteur de ce livre de Juges, il conclut ce livre de cette manière. Il dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de roi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tu fais ce qui te semble bon, tu fais ce qui te semble bon. Vous voyez, si on s'arrêtait et on reprenait tout le fil de l'histoire, on se rendrait compte en fait que, à la manière dont l'Union européenne fonctionne, Commonwealth ou d'autres types de réunions d'États, on peut se dire, en ce temps-là, il n'y avait pas de traité moral, d'accord moral, de consensus moral, alors les gens suivaient leur propre conscience morale. Ils faisaient ce qui leur semblait juste et bon. Et si on reprend toute l'histoire, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez vous en rendre compte. Le Lévite pensait que c'était bon d'avoir une concubine pour lui, il est allé le faire. Et il est allé chercher une concubine parce qu'il pensait que c'était ce qui était bon pour lui. Les gens de Gibéa, ils se disaient, attendez, nous, on n'est pas obligés d'accueillir les gens, d'offrir l'hospitalité, on fait ce qui nous semble bon, si on n'a pas envie, on les fait se virer, etc. Et puis après, le Lévite, il se dit « Ah, mais si on en est là et que les gens veulent me faire du mal, c'est après tout, c'est pas de ma faute. C'est la faute de elle, là, la concubine, qui a été infidèle et puis que j'ai dû aller rechercher. Donc après tout, c'est de sa faute. Je vais la faire sortir au sein des gens. » Puis voilà. Et puis après, ainsi de suite, chacun, en fait, faisait ce qui lui semblait bon. Puis le peuple d'Israël s'est dit « Ah oui, il faut leur enseigner une leçon à ces Jabès en Galade, là, cette famille qui n'a pas participé. On va faire ce qui nous semble bon. On va leur piquer leur fille, etc. » Vous voyez, il n'y avait pas droit. Chacun fonctionnait selon sa morale, son code moral. Et au final, c'était quoi? Le chaos. Le chaos, c'était juste pas possible de vivre de cette manière-là. Il n'y avait pas d'ordre. Et vous savez pourquoi ça me parle, cette histoire? C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de cela en toi, en vous, en moi. On a tous envie de faire ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bon. Et pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, on ne veut pas être qu'on nous dise quoi faire. On n'aime pas que... Moi, j'aime pas, personnellement, quand mon épouse vient et me dit, ah, tu devrais faire ça, ah, ça tique un peu, ça fait un peu mal. Mais je pense que c'est chacun. On n'aime pas, naturellement, on n'aime pas ça, qu'on nous dise quoi faire. Pas vrai? Je suis le seul? On dit, attends, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu gères ta vie et ta famille comme tu le veux. Ce qui est juste pour toi, ça n'a pas besoin d'être juste pour moi. Et en fait, ce qu'on se dit à l'intérieur de nous, c'est on voudrait faire, avoir la liberté de faire ce que nous voulons, quand nous voulons et avec qui nous voulons. Pas vrai? Et je veux que personne d'autre me dise ce que j'ai à faire. Mais parce qu'on est des gens civilisés, on ajoute une petite phrase à ça. On se dit, tant que ça ne fait de mal à personne. Et ça semble beau et poétique. Mais j'ai un problème avec ça. Parce que je crois que c'est un mythe. Parce que pour que ça fasse de mal à personne, il y a plusieurs conditions. D'abord, je crois qu'il faut être super riche. Je m'explique. Mais vraiment méga riche. Parce qu'il faut avoir la capacité de payer des tonnes et des tonnes d'avocats. J'explique. Parce qu'à un moment donné, il faut nettoyer et s'assurer qu'au final, il n'y a personne qui soit heurté, qu'on puisse amener des compensations, etc. Et tout ça. Mais au réel, ça ne marche pas vraiment. Il y a quand même quelqu'un à qui ça a fait du mal. On est d'accord avec ça? Mais si on voudrait philosophiquement que ça marche, il faudrait être super riche. Tout le monde ne l'est pas. Et la réalité aussi, c'est que on n'est pas dans un monde où on nous enseigne ça. Personne n'a entendu son professeur le vendredi soir quand il quittait dire « Hé les enfants, bon week-end à tous !» Mais avant que vous partiez, n'oubliez pas, la clé du bonheur, c'est que vous fassiez ce que vous vouliez, quand vous vouliez, avec qui vous vouliez, et que personne ne vous dise ce que vous devez faire. Allez, bon week-end! Vous avez entendu ça? Personne n'a entendu un directeur de foyer de protection de l'enfance dire à des parents qui, parce qu'ils étaient destructeurs vis-à-vis de leur enfant, leur dire « Oh, je vous reçois les parents. » Et vous savez, la clé pour récupérer votre enfant, c'est de continuer de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, comme vous le voulez. Non, on n'entend pas ça. Vous n'entendrez pas un officier de police dire ça. Vous n'entendrez pas un juge dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui vivent du côté des conséquences, de ceux qui subissent les réalités, ils savent mieux que c'est un mythe, que ce n'est pas possible de vivre librement comme bon le semble sans heurter quelqu'un. Une deuxième raison qu'on pourrait citer, c'est que cela fonctionne généralement mieux pour les hommes que pour les femmes. Réfléchissez. Partout dans le monde où les femmes ont des droits, elles ont dû se battre pour ça. Elles ont dû se battre pour les avoir. Donc c'est pas possible qu'on puisse être dans une dynamique où on se dit « je fais ce que je veux, comme je veux, quand je le veux, avec qui je le veux », tant que ça ne heurte personne. Parce qu'au final, il y a toujours quelqu'un qui vient souffrir. Toujours quelqu'un à qui ça vient faire du mal. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, on pourrait en parler. Mais si ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'on fait du mal, il y a une autre réalité. À la fin, exactement, j'ai entendu soi-même. On se fait mal à soi-même. Tu te fais du mal. Certains d'entre vous sont bizarres. Certains d'entre nous sont bizarres. Ils subissent des choses. Et après quelques années, vous avez commencé à comprendre pourquoi, ce qui s'est passé. Vous avez la trentaine et puis vous regardez en arrière et vous voyez l'absence de votre père ou votre mère qui était alcoolique, qui rentrait le soir, qui ne prenait pas soin de vous. Vous voyez les conséquences de ce que vous avez vécu. Et donc, vous savez qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, quand on le veut, avec qui on le veut, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit heurté. Ça, vous l'avez compris. Parce que vous, vous avez dû vivre avec ça chaque jour depuis. Chaque jour depuis ces conséquences. C'est terrible. Pour moi, c'est un mythe. Je ne crois pas que ça soit possible. Et vous savez ce qui se passe ? C'est qu'à la fin, on est tous des hypocrites. Enfin, ouais, je voudrais peut-être parler de ça d'abord. Enfin, on sera contrôlé par quelque chose avant. C'est-à-dire que là où tu t'es dit « Ah, je fais ce que je veux, j'ai le droit, comme on l'a entendu, ça, de fumer autant de paquets de cigarettes que je veux ou de mettre mal en buvant de l'alcool jusqu'à tard le soir comme je veux, c'est ma vie. » Au final, c'est ton addiction qui vient te contrôler. Parce que tu te dis après, ah, je suis dépendant de cet alcool, j'ai envie de plus d'alcool, etc. Et tu viens, et finalement, là où toi, tu voulais exprimer ta liberté en disant, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je le veux, finalement, c'est cette chose-là où toi, tu exprimais ta liberté qui vient te contrôler. Et c'est plus toi qui as cette liberté, c'est finalement l'alcool, finalement la sexualité dépravée, ou des choses comme ça qui viennent te contrôler. Donc au final, tu n'es plus vraiment libre. Ça, ce sont les choses qui se passent. Et au final, on est donc tous... Au final, on est tous des hypocrites. Pourquoi ? Parce que on désobéit à quelqu'un. Ah, tu sais, ma fille, je suis pas trop à l'aise avec ce gars que tu fréquentes. Oh, la vieille, l'ancêtre, je fais ce que je veux. Tu rentres dans cette relation et au bout d'un moment, tu te rends compte que ça va nulle part. Pire que cette relation, elle commence à te détruire. Et là, vers qui tu vas ? De la désobéissance au désastre, et vers qui tu vas ? Ben, tu appelles ta maman parce que tu as besoin d'aide. Je prends un exemple, vous mettez l'exemple que vous voulez derrière. Mais à chaque fois, on revient vers la personne à qui on a désobéi, comme des hypocrites, parce qu'on a besoin d'être d'aide, on a besoin d'être aidé. Et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle de tout ça ce matin ? Et quel lien avec Noël ? Les Israélites, un peu plus tard, ils viennent vers Samuel, un prophète, un gars qui était là, qui parlait au nom de Dieu, et ils lui disent, vu la galère dans laquelle ça nous a conduit de ne pas avoir de roi, vu le chaos dans lequel ça nous a conduit de ne pas avoir de roi, donne-nous un roi. Et là, Samuel, il est « Ah !» Parce que Dieu est censé être leur roi, mais eux, ils veulent un roi, une autorité humaine qui est établie sur eux. Et ils luttent avec Dieu, et au final, Dieu dit « Ouais, ok, on va leur accorder ce qu'ils veulent. » Et ce qui se passe, c'est que Dieu, à travers Samuel, établit un roi qui s'appelle Saül. Eux avaient la nécessité d'un roi. Saül, il y a Josué, juge, il vient juste avant David, Saül. Et vous savez de quelle tribu vient Saül ? La tribu de Benjamin. Celle qui a été de Gibéa. Celle qui a été assassiné, celle qui a été exterminée, etc. Et là, on se pose la question, mais attendez, c'est très humain tout ça. Ils ont envie d'un roi, on leur établit un roi d'une tribu qui a été exterminée, etc. Et après seulement, Dieu change le cours de l'histoire. Il y a David qui est oint roi, toujours sur le pays d'Israël. Et je la fais courte, et beaucoup plus tard, vous voyez, Dieu vient établir le roi qu'il a toujours voulu établir. Il n'a jamais voulu qu'il y ait d'autres rois avant. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas une emprise, un roi qui vienne régner comme ça sur nos vies, imposer ses commandements et ce genre de choses. Il voulait établir un roi qui vienne dans notre cœur. Un roi qui vienne nous changer de l'intérieur. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Jésus qui vient parler à notre conscience morale. Lui qui est le seul juste. On a besoin d'un roi, les amis. On n'a pas besoin d'un souverain établi pour venir nous dire quoi faire, etc. D'ailleurs, on n'aime pas ça. Mais on a besoin d'un roi qui vienne parler à notre cœur. On a besoin de la venue de Jésus. On a besoin de Noël. On a besoin de Jésus qui est le roi des rois. Dont la Bible parle qui est le roi des rois. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir me rejoindre et vous dire que Jésus, c'est vraiment lui qui peut nous donner notre boussole. On pourrait essayer d'établir, s'asseoir ensemble, tous, et de créer des traités, comme dans l'Union européenne, d'essayer de dire « Ah ouais, qu'est-ce qui est juste ?» etc., de chercher, de se casser la tête et tout. On n'y arriverait pas. Mais par contre, si on cherche Jésus, si on accepte Jésus comme notre roi, alors on peut avoir ce sens qui est juste. On ne peut pas se fier à nous-mêmes, mais on peut trouver la justice en lui. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un roi. Tu as besoin d'un roi. On a besoin d'un roi, mais on n'a pas besoin d'un roi comme le monde l'envoie. On a besoin d'un roi, pas qui vient de s'imposer à nous, mais d'un roi qui vient de proposer à nous un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle vie. Amen. Amen. Je vous invite peut-être à vous lever avec moi. Et vous savez, quand Dieu a envoyé Jésus comme roi, il l'a envoyé dans cette condition d'humilité, naître dans une étable, parce qu'il voulait changer notre manière de penser. Comme le peuple voulait quelqu'un d'éloquent, de grand, et c'est ce qui est dit de Saül, il dépassait d'une tête tous ceux du peuple d'Israël. Et du coup, on a envie d'établir un roi comme ça qui nous semble le bon gars, la bonne personne et tout. Mais Dieu voulait renverser notre cheminement de pensée, renverser notre manière de voir. Il ne voulait pas établir un règne qui vient s'imposer à nous, mais il voulait établir un règne qui vient dans nos cœurs, un règne qui démarre dans nos cœurs. Et la décision, comme on l'a déjà entendu ce matin, ce n'est pas une décision de se soumettre sous un régime, mais d'accepter Jésus, d'accepter que Jésus est vraiment venu dans une condition humble, qu'il a vraiment été, puisque c'est ce que la Bible nous dit, jusqu'à mourir pour nous, prendre notre place afin que nous soyons élevés auprès de Dieu, afin que nous soyons élevés en dignité. Parce que la réalité, c'est parce que Jésus est le roi des rois que nous pouvons être appelés des rois et des reines, des héritiers du grand roi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la vie, avec Jésus, on peut régner. Pas par nos propres forces, pas régner selon ce qui nous semble juste, mais régner dans l'amour, régner dans la paix, instruit par la parole, guidé par l'Esprit de Dieu. Et quelle que soit la sphère dans laquelle tu es, là où Dieu t'a positionné, tu peux régner dans ton foyer. Tu peux régner dans ton environnement de travail. Tu peux régner sur les circonstances qui sont là dans ta vie. Mais pour ça, tu as besoin de Jésus. Alors je voudrais prendre juste un instant qu'on puisse fermer nos yeux, s'arrêter, baisser nos têtes, incliner nos cœurs. Parce que la Bible nous dit que si Christ est venu, il est venu pour nous donner la vraie liberté. S'il nous a affranchis, c'est pour la vraie liberté. Ce n'est pas pour cette liberté, comme on l'a entendu, de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, où on veut. Mais pour cette liberté qui est beaucoup plus profonde, qui est épanouissante. Et si c'est toi ce matin qui as envie de déclarer Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors dans un instant, je vais t'inviter à simplement le manifester en levant ta main là où tu es, afin qu'on puisse prier avec toi, se réjouir avec toi et t'accompagner dans cette démarche personnelle que tu prends. C'est ta décision. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, ceux qui le peuvent, les têtes sont inclinées, je voudrais te donner cette opportunité. Si ce message, ça t'a parlé ce matin et tu te dis oui, il n'a pas tort le gars-là. Au fond, j'ai besoin d'un roi, j'ai besoin de repères. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise ce qui est juste. J'ai besoin. Et s'il a raison et que ce Jésus peut être cette personne-là pour moi, j'ai envie de le découvrir. Si c'est toi qui veux ça dans ton cœur ce matin, alors que tu as toute l'intimité, je te demande simplement de lever ta main là où tu es, comme ça on va pouvoir prier avec toi. Si c'est toi, sur le compte de trois, je te laisse lever ta main. 1, 2, 3. Si c'est toi, lève ta main là où tu es. Amen. 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 Tu peux baisser ta main. Et on va simplement prier ensemble. Et comme une grande famille, si tu le peux, répète après moi ces mots. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, si je dis Seigneur, c'est parce que j'ai compris que tu étais un roi et que tu étais un roi juste et que sans roi, ma vie n'est que chaos. Mais si toi, tu deviens le roi de mon cœur, alors ma vie peut être en ordre, ma vie peut être abondante. Ma vie peut être dans la paix. Ma vie peut être dans la joie. Alors Seigneur, oui, je mets derrière tout ce qui me retient. Je laisse tout mon passé et je te demande pardon pour toutes les choses mauvaises que j'ai pu faire. Mais je crois qu'en t'établissant roi de mon cœur, ma vie est changée à jamais. Ma vie est nouvelle. Alors merci. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir les personnes qui ont pris cette décision ce matin? Amen. 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 Et avant de terminer en chanson et en célébrant Dieu, j'aimerais te dire que si tu as pris cette décision ce matin, c'est une excellente décision. Et si tu as le besoin, on se tient à ta disposition, je me tiens à ta disposition. Tu peux prendre une Bible et on sera ravis de t'accompagner dans ce parcours afin que tu connaisses le roi merveilleux qu'est Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.